Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Camille Blanès et Jeanne Paravert, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Djoubaka. Aujourd'hui à la technique, Patrick Henry. La gourmandise ce matin, je l'ai trouvée dans une vieille édition d'un roman de Beckett. C'est un mot dont je n'ai toujours pas trouvé la signification, mais dont la musique suffit à mettre en joie. Le mot Alphamousse. Le roman que j'ai entre les mains, c'est écrit sur l'une des premières pages, est une édition originale sur Alphamousse. Je cherche la définition, elle est introuvable. Je consulte les oracles, internet, un chien savant, je n'en apprends pas plus. Je demande à une experte de l'édition, elle sonde le cosmos environnant, puis me livre cette réponse sommaire. C'est un type de papier. J'accepte un bout de réel, d'accord, mais de quel type de papier s'agit-il ? Un type onirique, baroque, tropical, scintillant, libéral, cruciforme. Une intuition m'étreint. Il ne faut pas chercher à en savoir plus. Ça ne pourra être que désappointant. L'existence du mot Alphamousse, sans définition, ouvre un champ des possibles quasi illimité. Aujourd'hui, notre apothicaire de l'âme est une mathématicienne et pédagogue née en Iran, où elle passe une partie de son enfance avant de s'installer en Syrie, puis au Liban. Si elle prône un enseignement des mathématiques basé sur le sens, les mots et la langue, c'est aussi par cette dernière qu'elle définit son identité. Son identité, c'est la langue parlée à la maison, un gracieux français auquel elle rend hommage, tant lorsqu'elle aborde la numération que lorsqu'elle se raconte, comme dans son autobiographie intitulée « Naître en français ». Outre l'enseignement et les livres, cette chercheuse a consacré 14 ans de sa vie à la rédaction d'un dictionnaire de mathématiques qui pourrait être mon remède à la mélancolie des 50 prochaines années, tant je vois de la poésie dans son vocabulaire. De son côté, notre apothicaire considère l'énumération comme un jeu en soi et rappelle que les mathématiques nous confrontent à des idéalités. Stella Baruch, bonjour.
Bonjour Eva Bester.
Stella Baruch, êtes-vous un être mélancolique ?
Je pourrais presque le devenir, vous n'imaginez pas le trouble dans lequel vous me jetez.
Mais pourquoi ? C'était absolument pas mon but.
Parce que, non, bien sûr, mais parce que je n'en sais rien, figurez-vous. Ça m'a amené à m'interroger sur les années passées, sur... Et j'ai éprouvé de la mélancolie, et je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, du coup, je pourrais vous dire merci pour votre invitation, et voilà, et nous nous sommes tout dit. Mais comme nous ne nous sommes pas tout dit, on va essayer d'explorer. Si vous voulez, la mélancolie, telle que je la vois le mieux définie, c'est quand même par Verlaine, quand il dit « il naît de pire peine ». À ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Alors, bien sûr, mon cœur a connu des peines diverses, comme tout le monde, parfois très intenses, mais je n'appellerai pas ça de la mélancolie. En revanche, je sais qu'elle existe, elle existe puisque vous m'interrogez là-dessus, et puisque, comme tous les professeurs de mathématiques, je l'ai rencontrée. De cette façon-là, j'ai d'ailleurs un cadeau pour vous. Vous verrez ce que vous en faites, ce que vous en ferez. Mais comme vous m'avez dit aimer les mathématiques, vous allez être servi. Alors, c'est le Mélancolia de Dürer.
Évidemment.
Oui, évidemment.
Avec tous les instruments de mesure mathématiques.
Exactement. Et puis surtout, je vous l'ai détaillé. Voilà.
Le carré magique derrière.
Le carré magique.
Oh, merci beaucoup.
De 1 à 16, qui est une pure merveille, là, chez Dürer, et qui est un remède à lui tout seul. Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que cette gravure porte le poids de la mélancolie et son antidote. C'est très nombreux antidotes. Mais, bon, Il y aurait plusieurs émissions à consacrer à toute la symbolique qu'il y a dans cette gravure.
Et justement, Stella Baruch, souvent on retrouve dans l'iconographie mélancolique des instruments de mesure mathématiques. Je ne me souviens plus de quel mathématicien il s'agit. Je crois que c'est un mathématicien de l'Antiquité qui était très mélancolique et qui voulait compter les grains de sable du désert, compter les gouttes d'eau qui composaient la mer. Vous pensez que c'est quelque chose de profondément mélancolique de vouloir mesurer le monde? C'est pour se rassurer qu'on mesure le monde?
Je ne sais pas, je suppose que vous parlez d'Archimède, qui a essayé de dénombrer le nombre de grains de sable qui rempliraient tout l'univers, pour montrer qu'il y a toujours un au-delà, et c'est-à-dire que le nombre de grains de sable n'est pas infini. Parce que pour les Grecs de ce temps-là, dire, je ne me souviens plus de l'expression exacte, mais dire... par exemple, je ne sais pas, que quelque chose était sablonneux, c'était pratiquement synonyme de infini. Et il a voulu, comme je dis, protéger l'infini des incursions qu'on pouvait faire à tort en pensant que, eh ben, l'infini, ça existait. Eh ben, non. On peut toujours, il y a toujours un au-delà, mais qui n'est pas l'infini.
Une démarche hautement poétique et l'infini, la notion d'infini, c'est très poétique. D'ailleurs, j'encourage les auditeurs à s'y intéresser et je leur annonce le sommaire. Dans quelques instants, Stella Baruch, vous allez convoquer des claquettes, Kandinsky, un coq d'or, du ping-pong, les mémoires de Berlioz, le caïf oriental, et je fais la diphtongue exprès, Jeanne Moreau, le Kingston Trio et la notion de possibilité. Réjouissance prévue juste après ce titre du groupe Radio Elvis, Solarium.
Premier jour de printemps, alignons le désert, faisons le point sur nos révélations. Déjà les choses t'échappent, dans le départ est proche. Autour de toi s'écroule ce que tu croyais là. Solarium, immobile en surface, voyage au bout du monde. Le moindre bruit s'efface dans l'étendue est vaste. Et n'être plus qu'une ombre, la menace d'un vestige. Autour de toi s'écroule ce que tu croyais là. Solarium, et là tu sens, c'est la chaleur qui te prend. Et là tu sens, c'est la hauteur qui te prend. C'est l'heure où l'on se presse pour rassembler nos fièvres, les porter à nos lèvres en un souffle premier. Le son et la lumière s'imposent à ton éveil. Quelque chose existe, là, quelque chose existe. Est-ce le vide qui s'avance ou l'instant qui nous vide, là? Quelque chose existe, là. Solarium, c'est l'heure où l'on se presse pour rassembler nos fièvres, les porter à nos lèvres en un souffle premier, fondu à la lumière, en ordre après la fuite. Ces rives ont rêvé le sens qui se cachait là. Premier jour de printemps, alignons les déserts, faisons le point sur nos révélations.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de la mathématicienne et pédagogue Stella Baruch.
Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously.
But Moses, he knows his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be.
Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously.
A Mose is a Mose.
A rose is a rose.
A toes is a toes.
Hoop-de-doody-doodle. Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. For Moses, he knows his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be.
1952, chantons sous la pluie de Stanley Donen et Jane Kelly, c'est la scène chez le professeur de diction. Pour moi, c'est le film qui a inventé la joie.
C'est absolument irrésistible. Je suis doublement heureuse que vous ayez choisi ça, parce que c'est inusable de bonheur, parce que ça mélange le rythme, le mot, les sonorités. C'est absolument extraordinaire. En plus, j'ai découvert que c'était une comptine enfantine.
Ah oui, et ça, vous adorez ça, ça revient souvent dans vos ouvrages, c'était la
Baroque. Absolument, j'adore ça, c'est-à-dire que c'est très tôt que les enfants apprennent à apprécier la sonorité des mots, leur chair, et voilà.
Et alors, Chantons sous la pluie, c'est un film qui revient de façon assez régulière dans l'émission, mais on ne s'en lasse jamais. À chaque fois qu'on le regarde, on voit quelque chose de différent.
Ah bon, je ne suis pas toute seule alors.
Ah non, non. Vous êtes quelques-uns.
Oui.
Mais c'est un réjouissement. Vous avez une scène que vous affectionnez particulièrement dans ce film ?
Eh bien, celle-ci, d'une part. Et d'autre part, effectivement, la scène qui est l'emblème, qui est celle où Gene Kelly se met à chanter sous la pluie, et ce que ça a d'absolument extraordinaire, alors que justement, dans ces comédies musicales que moi absolument j'affectionne, j'adore, j'en ai vu des quantités, cette espèce d'évidence. Alors, est-ce que c'est parce qu'on l'a beaucoup vu ce film, ou bien parce que c'est admirablement fait, mais peut-être que les deux interviennent, mais la façon dont il se met à chanter, ça va de soi. Alors que c'est si souvent un peu ridicule de voir, même dans West Side Story, hein, quand il commence à se mettre à chanter, bon, c'est un côté un petit peu artificiel. Ici, pas du tout d'artifice. Cette espèce de merveille de la façon dont les choses arrivent, plus évidemment les claquettes, plus l'épisode de « il saute sur la lanterne », là, bon, c'est une merveille d'évidence.
Ça m'étonne pas, Stella Baruch, que vous soyez sensible à ce film, avec le rythme, la musique, les claquettes, ça peut se transcrire en mathématiques, je pense, et je crois que vous vous destinez à une carrière de musicienne.
Comment vous savez ça ?
J'ai enquêté.
Absolument, oui, oui.
Vous jouiez du violon ?
J'ai fait du violon et j'ai fait du chant.
Et dans ce film aussi, ce qu'on peut dire, c'est que tout est jeu, tout est ludique. Pour moi, c'est la définition de la sprezzatura italienne, vous savez, le fait de travailler énormément, mais de ne pas montrer du tout les efforts, que tout ait l'air facile. En fait, il y a un travail terrible derrière pour que tout semble si évident, comme vous le dites. Est-ce que vous vous amusez facilement ? Parce qu'ils rendent tout ludique dans ce film. On dirait que le but de la vie, c'est de s'amuser à chaque seconde.
Mais en même temps, justement, ce qui est admirable, c'est qu'avec cette façon de s'amuser, on a une vision de la vie qui n'est pas du tout sous le signe de l'amusement, mais de l'optimisme, de la bonne humeur, de la force, de l'amitié, de la chose tout le temps arrangeable, réparable. On peut surmonter les pires obstacles, les pires inconvénients. Je trouve ça absolument extraordinaire. Et comme vous dites, ce que ça a d'extraordinaire, c'est que la masse de travail dont il est évidemment beaucoup, dont on parle beaucoup dans les commentaires qui sont faits, efface absolument tout sentiment de travail. Voilà.
Parlons maintenant de danse sur toile. C'est la Baruch que vous avez choisi, le tableau de Kandinsky, Improvisation 9, réalisé en 1910. Et vous avez eu la gentillesse de nous indiquer un morceau pour l'introduire. Qu'est-ce qu'on entend ?
On entend un auteur que Alexandre Brusilovski a redécouvert et réhabilité, qui s'appelle Randoshin, et qui utilise là un thème populaire, archi-populaire en Russie, c'est presque l'emblème, c'est l'histoire du bouleau. Le bouleau est quasiment l'arbre emblème, encore une fois, de la Russie. Et ce que ça a d'extraordinaire, ce sont ces rencontres, c'est-à-dire, c'est du violon, moi j'ai fait du violon, c'est russe, j'ai une passion pour la musique russe, et comme nous allons parler de Kandinsky, eh bien Kandinsky s'était passionné pour une sorte d'art populaire qu'il avait découvert à 20 et quelques années. Et donc, et là, cette entrée, après ces quelques mesures délicieuses d'évidence aussi populaire, avec cette voix très, très naturelle elle aussi, on a cette entrée dans le rythme qui est elle aussi absolument, comment dire, elle vous embarque comme vous embarquent toutes les mélodies populaires russes, vous savez, telles qu'on les connaît, chantées par les chœurs de l'armée rouge, etc.
Là, cet extrait du disque Le Coq d'Or, miniature russe pour violon d'Alexandre Brusilovski. Et pour revenir donc à Improvisation 9, c'est entre l'abstrait et le figuratif. Il paraît que c'est un paysage des environs de Murno, mais ça n'a pas vraiment d'importance. On voit des collines, une maison, un animal avec un personnage dessus. Comment vous le décririez, ce tableau, Stella Baruch? Et qu'est-ce qui vous plaît dedans? Qu'est-ce qui résonne en vous?
Alors, c'est vraiment une histoire, ça. Ça suppose une petite explication préalable. L'astrophysicien Pierre Léna m'avait un jour raconté une histoire, qu'on se trouvait dans le même lieu, ou pour une intervention quelconque. Il m'avait raconté l'histoire d'un jeune garçon qui avait dessiné une montagne et un arbre sur le flanc de la montagne. Et cet arbre, vous avez vu, j'imagine, le tableau de Kandinsky. Cet arbre se trouvait être perpendiculaire à la pente. Et donc, on l'avait un petit peu tensé en lui disant « T'as déjà vu des arbres comme ça, toi ?» Bon, alors, cette histoire m'a été racontée. Et puis, à l'exposition Kandinsky, 2009, au Centre Pompidou, je regarde des toiles toutes plus extraordinaires les unes que les autres, mystérieuses, hein, parce que l'abstrait, ça ne va pas de soi quand même. Bon. Et puis je tombe sur toute cette série colorée des improvisations, des impressions, etc. Et je tombe en arrêt devant Improvisation 9. Si vous regardez bien, vous allez trouver un arbre perpendiculaire à la pente. Alors, c'est une merveille. Qu'est-ce qu'a voulu faire Kandinsky? Alors bon, j'ai essayé quand même de regarder autre chose que cette simple chose qui me comble d'aise. Le tout me comble d'aise, parce que ce personnage qui est absolument sur le haut, sur la pointe de la montagne, qui tient comme ça, ce qu'on voit au fond, qui est peut-être un palais, une église, on ne sait pas. Bon, j'ai cherché en vain un commentaire. Il n'y en a pas. Je ne sais pas, vous l'avez peut-être fait aussi, non?
Oui, mais tant mieux en fait, comme oui. Le mot alphamous dont on n'a pas la définition.
Exactement.
Tant mieux.
Alors, ça permet de rêver. Et comme il est beaucoup question justement avec Kandinsky dans plusieurs de ses toiles, d'une sorte de mouvement, de façon dont les formes se poussent les unes les autres, vont vers le fond, mais je ne sais pas. J'ai essayé d'imaginer, comme c'est encore dans le style un peu populaire, avec les couleurs très, très, très intenses, etc., ben, que c'était un chevalier qui allait sauver une princesse dans le palais qui était au fond. Voilà, c'est...
On reste,
de quoi scandaliser les candidatistes patentés, mais tant pis.
Mais nous espérons les scandaliser. Évoquons votre activité anti-spleen en musique.
Je t'envoie mon cœur à coups de raquette, mais tu le rejettes d'un petit air moqueur dans ses bas battements de cellules. Loïc, au tic-tac, rapide, il va palpitant.
Ping-pong de Marcel Amont pour rendre hommage à ce loisir inventé à la fin du 19e siècle en Angleterre par des sportifs qui voulaient s'amuser malgré le mauvais temps. Une activité alliant des formes géométriques parfaites, une rythmique quasi musicale. Est-ce que vous en faites souvent du ping-pong, Stella Baruc?
Chaque fois que je peux, c'est-à-dire en vacances. Et il y a eu un temps où j'en faisais pas mal quand j'étais étudiante, justement. Et c'est un jeu que j'adore, absolument. Je l'adore parce qu'il suppose de la rapidité, il suppose des réflexes, il suppose... Et puis surtout, il me fait beaucoup rire. Les facéties d'une balle qui ne fait pas ce que vous voulez, la mauvaise volonté d'un filet à laisser passer. Je veux dire, c'est plein d'imprévus, c'est plein de péripéties, et c'est très très amusant. J'adore ça.
Cet état nouveau est ce que les orientaux appellent le kiff. Ce n'est plus quelque chose de tourbillonnant et de tumultueux, c'est une béatitude calme et immobile, une résignation glorieuse. Depuis longtemps, vous n'êtes plus votre maître, mais vous ne vous affligez plus. La douleur et l'idée du temps ont disparu, ou si quelquefois elles osent se produire, ce n'est que transfiguré par la sensation dominante. Et elles sont alors, relativement à leur forme habituelle, ce que la mélancolie poétique est à la douleur positive.
Jeanne Paravert introduit votre remède suivant en lisant le poème du haschich de Baudelaire dans Les paradis artificiels. C'est pour illustrer le keif oriental dont vous donnez une définition truffée de termes mathématiques, Stella Baruc. Somme de petits plaisirs qui, en s'additionnant, opèrent un saut qualitatif. Un saut qualitatif, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'en s'additionnant, les petits plaisirs produisent un bonheur. C'est-à-dire le stade largement au-dessus qui est constitué par une foule de, parfois, petites choses. Mais c'est ce qu'il y a d'extraordinaire, je l'ai recherché, malheureusement je ne l'ai pas retrouvé, c'est une phrase de Freud où il dit exactement la même chose. C'est-à-dire des petits événements ou situations en s'additionnant qui arrivent à dépasser complètement qualitativement les éléments dont elle est composée. Eh bien oui, ça c'est, je veux dire, c'est mon héritage oriental. Il est certain qu'il y a un art du kef qui est admirable et que je continue de porter en moi avec les dangers que ça suscite, parce que les dangers, je ne parle pas du haschich.
Ni de l'opium.
Ni de l'opium, absolument pas. Je parle de l'espèce de mosaïque souhaitée et en général obtenue quand on est avec des amis, qu'il fait beau, qu'on est face à la mer, ou je ne sais pas. Bon. Mais si on a l'habitude de ce kef constitué de divers éléments, et s'il en manquait un, voilà. Donc, ça fragilise, et c'est un peu absurde, parce qu'on peut être très heureux sans qu'une somme décidée à l'avance soit accomplie.
Voilà. Il faudrait un kef aléatoire, imprévisible, et surtout, moi, ce que j'entends, c'est que c'est accessible, puisque c'est des petits plaisirs.
Absolument. Ce sont des petits plaisirs, ou parfois des grands. Être avec ses enfants, ses petits-enfants, en vacances, au soleil, bon, ce n'est pas rien.
Dans un instant, d'autres petits plaisirs s'additionneront pour nos âmes et nos oreilles. Le temps d'écouter un titre du prochain album de Laura Marling, Soothing.
Wanderer, you can't come in.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de la mathématicienne et pédagogue Stella Baruc et d'un chef d'orchestre et compositeur du 19e siècle. On entend un extrait de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, un bal, bravo, interprété par l'orchestre symphonique de Boston sous la direction de Charles Munch pour introduire votre sérum littéraire, Stella Baruc. Ce sont les mémoires de Berlioz, écrites entre 1848 et 1865, publiées dans leur intégralité après la mort du compositeur en 1870. Alors, merci pour cette découverte, parce que c'est émouvant, c'est charmant, c'est surtout très amusant. C'est le premier musicien célèbre à écrire ses mémoires, c'est très peu connu. Et on voit un homme, même s'il dit « je ne suis pas romantique, je suis classique », on voit un homme très romantique qui est tout le temps en train d'être fou de joie et, ou alors d'être abattu totalement dans la pire des mélancolies.
C'est un romantique flamboyant.
Flamboyant.
c'est admirable, ces mémoires sont admirables. Je veux dire, on est comblé de toutes parts par le fait de l'histoire, par le fait de la musique, par le fait de la littérature. Il parle de tout et il parle de tout avec passion. Et sa vie est un roman
ah oui.
extraordinaire avec des hauts, des des bas, des échecs, des réussites, c'est absolument incroyable. Mais ce que j'ai adoré, c'est cette absence totale de concession, c'est cette exigence, c'est cette relation à la musique qui lui était chevillée au corps, parce qu'il a fallu qu'il l'obtienne, hein, de devenir musicien.
Ses parents voulaient qu'il soit médecin.
Voilà, son père le destinait à la médecine, et il y a une, puisque vous l'avez lu, la séance de dissection qui est absolument
terrible, terrible et en même temps très drôle. Mais en fait, il y a un cadavre, donc il doit s'adonner à la dissection puisqu'il fait des études de médecine, et il prend des petits bouts de l'intérieur du cadavre qu'il jette aux oiseaux.
Absolument.
Oui, ça m'a marqué.
Les temps ont changé.
Oui, les temps ont changé. Il y a moins d'oiseaux au cours de dissection. Oui. Et surtout, c'est plein d'échecs et d'amours malheureuses, parce que c'était un grand amoureux. Ses plus grandes œuvres ont été inspirées par les femmes qu'il aimait. Et il a voulu se suicider plusieurs fois, il a voulu tuer des gens. En 1867, il brûle à la bibliothèque du conservatoire toutes les lettres qu'il a reçues durant sa vie, les photographies, les articles concernant, et il meurt 2 ans plus tard.
Oui, parce que il a préféré ne pas laisser de documents trop intimes sur justement sa vie amoureuse, ayant eu affaire à des femmes qui étaient particulièrement jalouses, oui, et qui lui rendaient la vie difficile. Mais ce que, si vous voulez, donc je parlais de cette absence de concession, et non seulement cette façon d'intervenir dans la vie musicale de l'époque, enfin en tout cas de dénoncer ce qui s'y passait, c'est-à-dire naturaliser Mozart ou bien Weber, transformer le Freischütz, qui est un opéra que j'adore, vraiment j'ai failli vous en proposer des extraits comme morceau favori, et enlevant la mélancolie, le Cœur des chasseurs par exemple, inusable aussi lui. Mais donc il dénonce les mœurs du temps qui consistaient à adapter au goût français et à l'opéra des chefs-d'œuvre comme le Freischütz transformé en Robin des Bois ou bien la Flûte enchantée transformée les Mystères d'Isis. Non mais c'est absolument incroyable. Et les arrangeurs qui se mettaient à arranger tout ça, à enlever, à mutiler, à tronçonner, à remplacer. Bon, voilà. Alors, il a des indignations extrêmement à la fois réjouissantes et revigorantes.
Il faut dire qu'on le disait tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'humour chez Berlioz. Et je pense notamment à un autre épisode, moi, qui m'a beaucoup fait rire, où il est à une représentation d'Oedipe à l'opéra. C'est ce que vous vouliez lire ? Ah bah, je vous laisse le faire parce que vraiment c'est merveilleux.
Continuez de dire justement. Vous le situez très bien, comme ça, ça m'évite d'avoir à le faire.
Bah, il est à une représentation d'Oedipe à l'opéra et derrière lui, il y a un monsieur qui a des émotions très très bruyantes, qui s'exclame « Sacré Dieu, monsieur, que c'est beau !» Voilà, et je vous laisse nous raconter ce qui se passe ensuite.
Très bien, il essayait de convertir à l'opéra le plus de gens possible. Il avait d'ailleurs eu des actions extrêmement vigoureuses en disant « Ce n'est pas dans Gluck, ne touchez pas à Gluck » en pleine représentation. Chaque fois qu'il s'apercevait qu'il y avait justement une intervention qui était faite sans aucun à-propos, sans raison, et surtout qu'on ne touche pas à Gluck, qui était un de ses
dieux. Non, on ne touche pas à Gluck.
Voilà. Et donc, il faisait du prosélytisme pour l'opéra. Il essaye d'y entraîner un de ses amis, qui était totalement indifférent. Et voilà donc le récit de la chose. La plus curieuse scène de ce genre dont j'ai conservé le souvenir est la suivante. On donnait Oedipe. Quoique placé fort loin de Gluck dans notre estime, Sacchini ne laissait pas que d'avoir en nous de sincères admirateurs. J'avais entraîné ce soir-là à l'opéra un de mes amis, étudiant parfaitement étranger à tout autre art que celui du carambolage, parce qu'il était très entraîné au billard, et dont cependant je voulais à toute force faire un prosélyte musical. Les douleurs d'Antigone et de son père ne pouvaient l'émouvoir que fort médiocrement. Aussi, après le premier acte, désespérant d'en rien faire, l'avais-je laissé derrière moi, en m'avançant d'une banquette pour n'être pas troublé par son sang-froid. Comme pour faire ressortir encore son impassibilité, le hasard avait placé à sa droite un spectateur aussi impressionnable qu'il l'était peu. Je m'en aperçus bientôt. Derivis, c'est le chanteur, venait d'avoir un fort beau mouvement dans son fameux récitatif. « Mon fils, tu ne l'es plus, va, ma haine est trop forte !» Tout absorbé que je fusse par cette scène si belle de naturel et de sentiment à l'antique, il me fut impossible de ne pas entendre le dialogue établi derrière moi entre mon jeune homme, épluchant une orange, et l'inconnu, son voisin, en proie à la plus vive émotion. « Mon Dieu, monsieur, calmez-vous !»« Non, c'est irrésistible, c'est accablant, cela tue !»« Mais monsieur, vous avez tort de vous affecter de la sorte, vous vous rendrez malade !»« Non, laissez-moi !»« Oh, monsieur, allons, allons, du courage !»« Enfin, après tout, ce n'est qu'un spectacle !» Vous offrirai-je un morceau de cette orange? Ah, c'est sublime! Elle est de Malte! Quel art céleste! Ne me refusez pas! Ah, monsieur, quelle musique! Oui, c'est très joli. Pendant cette discordante des conversations, l'opéra était parvenu après la scène de réconciliation au beau trio. Oh, doux moment! La douceur pénétrante de cette simple mélodie me saisit à mon tour. Je commençais à pleurer, la tête cachée dans mes deux mains, comme un homme abîmé d'affliction. À peine le trio était-il achevé, que deux bras robustes m'enlèvent de dessus mon banc, en me serrant la poitrine à me la briser. C'étaient ceux de l'inconnu, qui, ne pouvant plus maîtriser son émotion, ayant remarqué que de tous ceux qui l'entouraient, j'étais le seul qui parut la partager, m'embrassait avec fureur, en criant d'une voix convulsive. « Sacre Dieu, monsieur, que c'est beau !» Sans m'étonner le moins du monde et la figure toute décomposée par les larmes, je lui répondis par cette interrogation. « Êtes-vous musicien ?»« Non, mais je sens la musique aussi vivement que qui que ce soit. »« Ma foi, c'est égal. Donnez-moi votre main. »« Par Dieu, monsieur, vous êtes un brave homme !» Là-dessus, parfaitement insensible au ricanement des spectateurs qui faisaient cercle autour de nous, comme à l'air ébahi de mon néophyte mangeur d'oranges, nous échangeons quelques mots à voix basse. Je lui donne mon nom, il me confie le sien et sa profession. C'était un ingénieur, un mathématicien. Où diable la sensibilité va-t-elle se nicher ?
On peut interpréter cette dernière phrase de plein de façons différentes. Les mémoires de Berlioz, vraiment à découvrir, absolument. Maintenant, mélangeons le calcul et les sons. Parlons tempo et musique. Voici la première chanson qui vous empêche d'être triste.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait la vague de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe, 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 ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant. Des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Remède à la mélancolie sur France Inter, on vient d'écouter votre premier antidote musical, c'est la Baruque enregistrée en 1962, Le Tourbillon, interprété par Jeanne Moreau, écrit par le peintre, écrivain et parolier Serge Rezvani en 1957, pour raconter l'histoire de Jeanne Moreau et Jean-Louis Richard, son premier mari, que l'actrice quittait régulièrement. Le morceau fut ensuite repris dans le film Jules et Jim de François Truffaut. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette chanson?
Ça m'évoque, justement, on va peut-être y toucher, la toucher, la mélancolie. Elle est là.
Ah oui.
Et elle est là avec son antidote, d'une certaine façon, c'est-à-dire ce que le temps dépose sur une histoire en disant oui, et puis après. Voilà. Donc, on s'est connus, on s'est reconnus, et puis voilà.
Mais il termine tant là, ça se termine bien pour une fois, bizarrement.
Ça se termine bien, et quelle que soit la façon dont ça se terminerait, c'est le recul que le temps donne à des drames qui ont été terribles, sanglants, peut-être, mais voilà.
Comme le disait Alfred Capu, tout finit par s'arranger, même mal.
C'est exactement ça.
On reste en 1962.
Some people say I'm a no-count, others say I'm no good, but I'm just a natural-born traveling man, doing what I think I should, oh yeah, doing what I think I should. And I don't give a damn about a greenback, a dollar, spend it fast as I can, or a wailing song and a good guitar, the only things that I understand. Oh boy, the only things that I understand.
Greenback Dollar de Hoyt Wayne Axton et Ken Ramsey, interprété par le Kingston Trio. Alors, c'est inspiré par la chanson folk du groupe Almanac Singers, I Don't Want Your Millions, Mister, interprété par Woody Guthrie, un classique de la chanson protestataire américaine. Je vous la prends, c'était la
Baruque. Ah oui, tout à fait.
Cette chanson, ça parle du désintérêt qu'on a face à l'argent. C'est pas ça qui compte.
Absolument, absolument. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'était le parolier était fils d'une de sa mère qui écrivait des chansons et des textes, et que justement en plus c'était ce gentil garçon qui est décrit dans la chanson. Et il s'est trouvé, c'est l'anecdote, que sa chanson a eu un succès absolument foudroyant avec le trio Kingston, et qu'il a été escroqué par un éditeur qui lui a donné $800. Et il ajoute en commentaire, je ne pouvais pas m'amuser à réclamer de l'argent alors que je disais que je n'en avais rien à faire. Mais bon, au-delà de l'anecdote, c'est un morceau, je ne sais pas, vous l'avez peut-être découvert là, non? Vous
le connaissiez? Oui.
Ah, bon, parce que j'ai l'impression d'être une des rares à en parler.
C'est vrai qu'on n'en parle pas.
Voilà.
On n'en parle pas. Et ça rejoint un peu votre citation consolatoire qui reprend à nouveau l'idée de calcul et qui forme un chiasme. Vous qui appréciez les jeux de mots, mais là, on n'a pas le temps d'aborder cela. Mais c'est alors un chiasme, c'est cette figure de style qui consiste à inverser l'ordre des termes dans les parties symétriques de deux membres de phrase de manière à former un parallèle ou une antithèse. Elle est attribuée à Einstein et c'est « ce qui compte ne peut pas toujours être compté, ce qui peut être compté ne compte pas forcément ».
Si c'est vrai, hein, on ne sait pas, on lui attribue tellement de citations, mais c'est admirable et ça rend tout à fait compte du mal dont nous souffrons actuellement, c'est-à-dire tout quantifier, c'est cette espèce d'économie délirante qui est décrite et décriée par les observateurs. On ne peut pas tout mesurer. Il y a de vieilles arithmétiques merveilleuses qui essayent d'expliquer aux jeunes enfants ou aux écoliers ce que c'est que de compter et de mesurer. Et qui expliquent que tout n'est pas comptable ou mesurable. Par exemple, le courage. Par exemple, la gloire.
C'est très joli.
On peut y ajouter la patience.
J'en ai entendu parler, mais... Alors, terminons très rapidement par l'idée qui vous réjouit. C'est « rien n'est impossible ». Mark Twain a dit « il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Rien n'est impossible. Vous avez eu l'occasion souvent de le vérifier.
C'était la Baruch.
Je vous aurais cité ça si vous ne l'aviez fait. Je sais que c'est faux, mais je fais comme si c'était vrai.
Ce sera le mot de la fin, c'est trop joli. Faisons tous comme ça. Merci beaucoup Stella Baruch d'être venue dans cette émission.
Merci de m'avoir invité.
On peut se procurer votre dernier ouvrage, Les chiffres, même pas peur, au PUF. Et signalons aussi la réédition au seuil d'Échec et Maths. Et je cite aussi toujours au seuil, nombreux à compter et à raconter. Et évidemment, vos deux dictionnaires, dictionnaire de mathématiques élémentaires et le dico de mathématiques pour les collégiens. Chers auditeurs, vous retrouverez la programmation musicale et les remèdes évoqués sur le site de l'émission. J'espère que votre âme est aussi pimpante qu'un nœud papillon en alpha mousse. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10.